Bonjour à tous. Et l'on commence par ce décret paru cette nuit en Italie. Les autorités ont décidé d'étendre à tout le pays les mesures qui ne touchaient jusqu'ici que le Nord. Toute l'Italie est donc placée en quarantaine face à la propagation du coronavirus. Les habitants doivent éviter les déplacements. Les lieux publics sont fermés. Idem pour les établissements scolaires. Le championnat de football est également suspendu. Des mesures drastiques après une nouvelle journée de contamination alarmante. Près de 100 nouveaux morts ont été recensés hier, portant le total à 463. 9000 personnes sont contaminées en Italie. Le pays reste donc le deuxième pays au monde le plus touché par le coronavirus derrière la Chine. La Chine où les autorités viennent d'annoncer, comme la veille, seulement 19 nouveaux cas. Le pays est en train de maîtriser l'épidémie. Voilà ce qu'a dit hier l'Organisation mondiale de la santé, qui ajoute que la menace d'une pandémie à l'échelle de la planète est devenue très réelle. En France, le ministre de la Culture, Franck Riester, a été testé positif au coronavirus. Son cabinet l'annonçait hier soir, affirmant qu'il reste chez lui. Il pourrait avoir été contaminé lors d'une réunion de la Commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Le bilan en France est de 1412 malades et 25 morts. Un virus qui inquiète par ailleurs les marchés financiers. Les écrans boursiers se sont emplis de rouge hier. Le CAC 40 a chuté de 8%. Idem à Londres, Francfort, Madrid, New York, du jamais vu depuis la crise de 2008. Moins 11% d'ailleurs à la bourse de Milan hier. Notons enfin un cessez-le-feu sous condition. L'accord a été signé hier après-midi à l'Elysée par le maréchal Haftar qui contrôle l'est de la Libye. Il s'est entretenu pendant près d'une heure avec le président français, annonçant donc ensuite qu'il acceptait de s'engager pour un arrêt des hostilités en Libye face aux forces pro-gouvernementales.
Chaque jour à 14h, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
À Paris, Beyrouth ou Buenos Aires, partout les classes moyennes battent le pavé. Autrefois, elles rêvaient d'ascension sociale et d'enrichissement, mais leurs espoirs sont brisés et le pacte démocratique vacille. Moyen, médian, mais pas médiocre, le blues des classes moyennes, on en parle toute cette semaine.
Entendez-vous l'écho, de lundi à vendredi à 14h et sur France Culture.
Intégrale des sonates pour piano de Beethoven, du 20 au 22 mars à l'Auditorium de Radio France. 10 pianistes, 32 sonates, pour redécouvrir le grand répertoire pour piano et fêter le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. Avec François-Frédéric Guy, Maroussia Chantet, Ismaël Marguin, Natalia Milstein, Jean-Paul Gasparian, Rémi Jeunier, Céline Mazzari, Guillaume Bellhomme, Alexandre Kantorov et Tanguy de Villancourt. Entrez au cœur du concert. Réservation maisondelaradio.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, c'est l'heure de retrouver Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, à la radio ou en podcast. Comment mangeait-on dans le Moyen-Âge? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on mangeait au juste? Et quels rituels accompagnaient les repas? Une exposition à Paris nous éclaire à cet effet. À table au Moyen-Âge, c'est jusqu'au 10 mai à la tour Jean sans peur à Paris dans le 2e arrondissement. Et mon invité ce matin est Danielle Alexandre Bidon. Elle est médiéviste et elle est co-commissaire de cette exposition.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour Danielle Alexandre Bidon.
Bonjour.
Alors d'emblée, il faut préciser que l'exposition à table au Moyen-Âge n'a pas lieu dans un musée. Ce n'est pas une exposition classique avec des œuvres d'art, des toiles et des sculptures. On est plus dans le Paris insolite quand on se rend dans cette tour cachée rue Étienne-Marcel dans le 2e arrondissement à Paris. La tour Jean sans peur qui est une tour de fortification édifiée à Paris dans le 15e siècle, je crois. Ouais,
au début du 15e siècle, ouais, entre 1409 et 1411.
Oh, c'est incollable, par le duc Jean Ier de Bourgogne, dit justement Jean sans peur. Et ce lieu, qui est un lieu de la ville de Paris, est un lieu qui est dédié aussi à la connaissance du Moyen-Âge. Par exemple, cet été, il y aura une exposition sur la jeunesse au Moyen-Âge, comment la jeunesse s'amusait au Moyen-Âge. Mais d'ici là, l'exposition, c'est à table, c'est-à-dire comment manger.
Bon appétit.
Bon appétit. D'ailleurs, c'est peut-être à partir de cette époque qu'est née cette bonne formule « On ne mange pas quand on boit et on ne boit pas quand on mange » que j'essaye d'appliquer. Et c'est très dur d'ailleurs.
Et on ne parle pas quand votre seigneur boit. Il y avait des règles extrêmement complexes de la contenance de table à cette période, bien plus complexes que les règles de politesse actuelles, mais évidemment dans les milieux aristocratiques et bourgeois.
Alors, qu'est-ce qui est exposé? Ce qui est exposé, ce sont des iconographies.
Ce sont des enluminures, oui. Donc des reproductions d'enluminures, car depuis des années, depuis très longtemps, 40 ans maintenant, avec des collègues, nous travaillons sur les représentations de la vie quotidienne au Moyen-Âge à travers les enluminures, peintes donc par des artistes qui souvent vivaient dans les châteaux où ces images donc étaient présentées. Et il connaissait par cœur les manières de vivre, les manières de faire des aristocrates de cette période. Quelquefois, il représentait aussi les paysans, bien moins souvent, parce que ça intéressait moins les aristocrates. Mais ce sont là des images qui ont été faites en toute connaissance de cause et où le réel est représenté.
Donc, travail de recherche, de documentation, et vous nous expliquez comment on mangeait donc, dans le Moyen-Âge. C'est vrai, principalement chez les aristocrates, mais il y a aussi quand même une ouverture vers les paysans et les ouvriers de l'époque.
Tout à fait, parce que en fait, nous sommes aussi des archéologues. J'appartiens à un groupe d'archéologie médiévale. Et les archéologues ont commencé par fouiller des villages de paysans. Et donc, à en apprendre énormément sur ce qu'ils consommaient, ce qui permet de voir la différence extrême avec ce que consommaient les gens de l'aristocratie médiévale.
Alors, comment on mangeait à l'époque du Moyen-Âge? Il y avait d'abord deux grands rendez-vous alimentaires pendant le Moyen-Âge. Il y avait le souper et le dîner.
Pour l'aristocratie, mais les paysans, ils ont droit à un petit déjeuner. Donc, au réveil, les gens qui travaillent, qui ont besoin de calories pour faire des efforts physiques, eux ont droit à un premier repas qui est fait de soupe et de pain, arrosé d'un peu de vin, parce que le vin est la boisson par excellence, la seule qui soit pure à boire. Et seuls ces gens laborieux, donc l'essentiel de la population tout de même, prenaient un premier déjeuner, donc au matin, au réveil, très tôt, quand le soleil se lève. Parce qu'on se lève avec les poules et on se couche aussi avec les poules. En revanche, l'aristocratie, elle, n'a pas droit à un petit déjeuner. Elle reste à jeun pour aller dans son château à la messe, dans la chapelle castrale. Et puis, c'est une manière de vivre qui fait que l'on ne se fatigue pas quand même au matin de bonne heure. Et donc, on attend environ 11h du matin pour prendre la première collation.
Alors, de quoi est faite cette première collation?
Alors, elle est faite de choses beaucoup plus sophistiquées, de fruits secs, de fruits apéritifs. En fait, tout repas à l'époque médiévale est divisé en une série donc d'assiettes de mets qui sont présentées, qui ont des vertus diététiques, selon la diététique médiévale. Donc d'abord, on mange des choses apéritives, ce qui signifie qui ouvre l'appétit. Et ce sont souvent des petits fruits acidulés, donc des cerises par exemple, ou bien encore des fruits à coque, des noisettes, une amande, ce genre de petites denrées qui n'a pas besoin de préparation et qui est juste, qui a une relation médicinale avec le corps. Ensuite, on passe à un potage, qui est donc ce qui est cuit dans un pot, c'est de là d'où vient l'expression potage, et qui peut contenir de la viande ou du poisson dans un bouillon. C'est donc une cuisson bouillie. En deuxième, on passe à une cuisson rôtie et on sert un rôt qui, dans l'idéal, est une volaille rôtie parce que les aliments sont classés suivant une longue chaîne symbolique qui va du ciel à la terre. Les paysans ont droit aux nourritures terrestres et les seigneurs ont droit à des nourritures plus célestes comme les oiseaux qui ont des ailes comme les anges et qui peuvent donc uniquement convenir aux gens de la plus haute extraction.
Ça dure combien de temps? Parce que ce que vous nous annoncez là, Daniel Alexandre Bidon, c'est un banquet.
C'est un banquet. C'est pas tous les jours. Mais vous savez quand même, il faut s'imaginer que la qualité de l'alimentation, la qualité symbolique, joue un rôle essentiel dans les milieux aristocratiques. C'est un rôle qui se lie à travers les mets qui sont consommés. Donc par exemple des volatiles plutôt que de la grosse viande de bœuf. Mais c'est également dans les couleurs, dans la présentation, dans la vaisselle utilisée. Et quand on est au niveau des résidents de la tour Jean sans peur, donc un niveau princier, oui, on a des banquets tous les jours.
Alors, avant de passer à table, parce qu'on passe à table, hein, ça y est, hein, le Moyen-Âge, les gens ont conçu la table. On s'assoit pour manger. On n'est plus affalé comme dans l'Antiquité.
Allongé.
Oui.
Élégamment.
Élégamment. Pourquoi vous regrettez cette position?
Ben, ça doit être amusant. C'est...
Mais avant de passer à table, on se lave les mains.
On se lave les mains. Le lavement des mains est essentiel dans de très nombreuses circonstances à l'époque médiévale, parce qu'il signifie non seulement la propreté, l'hygiène tout simplement, mais également la pureté. Et on se lave les mains pour passer à table, mais également au cours du repas, entre chaque mets, par exemple après avoir mangé avec les doigts, avec tout autant d'élégance que dans l'Antiquité, des ailes de volaille par exemple, il faut se relaver les mains avant de passer à l'étape suivante du repas.
Donc ça dure bien 2-3 heures. Hein, ça...
Alors non, pas pour les premiers repas comme de la collation de 11 heures, mais les repas du soir peuvent durer effectivement des heures et ne s'arrêter que vers 11 heures ou minuit. On se relave les mains après le repas parce qu'encore une fois on mange avec les doigts et donc la propreté est indispensable. Elle est prescrite dans des traités d'éducation qui s'appellent les livres de contenance de table et qui apprennent aux jeunes enfants de l'âge de 7 ans à bien se conduire et notamment donc à ne pas mettre les coudes sur la table, à ne pas s'affaler, pas se gratter le nez au milieu du repas, ne pas manger salement avec les doigts, mange proprement avec les doigts, à savoir bien partager éventuellement son mets dans son écuelle avec son voisin de table, etc. Donc il y a véritablement tout un corpus de convenances, de contenances, d'obligations. C'est quelque chose et qui était respecté.
Alors
il fallait bien se comporter.
Comment est organisée une table? Comment on s'assoit autour d'une table?
Alors, la table n'est pas encore un meuble dormant. Alors, comme on s'adresse au réveil culturel, on va prendre ces mots techniques un peu, mais qui sont évocateurs. La table dormante, c'est la table qui a quatre pieds, qui est fixe et qui exige d'avoir une salle à manger autour d'elle, puisqu'on ne peut pas la bouger. Ça n'existe pas encore.
Pas encore.
Donc, au début du Moyen-Âge, jusqu'à la fin, et même encore parfois au cours du XVIe siècle, voire au début du XVIIe siècle, y compris dans l'aristocratie, on utilise un tableau de bois. C'était la table, c'est ça. Posé sur des tréteaux, qui sont des tréteaux en chevalet, et on peut adjoindre autant de tables qu'on veut si on veut une immense tablée ou ne sortir qu'un tréteau, deux tréteaux et un plateau pour accueillir seulement le seigneur et sa famille proche.
Et comment les gens se mettent autour du seigneur, autour de cette table? Est-ce que chacun a son statut représenté au moment des repas?
Oui, tout se lit dans le statut, aussi bien dans les vêtements que dans l'habillement, dans la nourriture également, mais également dans le mobilier. Donc le seigneur, lui, il est assis dans une cathèdre, une sorte de chaire avec un haut dossier qui est posé sur une estrade et qui marque sa puissance supérieure. C'est le chef. Il est quelquefois même isolé avec une table rien que pour lui et tous les autres qui sont donc dans d'autres tables disposées latéralement en U. Autrement, quand il s'agit juste de la famille nucléaire, dirons-nous, il y a un haut-bout et un bas-bout, même sur une seule table, un seul plateau de bois. Au haut-bout, dos au feu, devant la cheminée, le principal convive, donc le seigneur du lieu, à côté de lui, son épouse, et au bas-bout, on met les enfants. D'abord les garçons, qui sont prioritaires, sur les filles, qui arrivent en dernier.
Et puis, pour tout ce qui est ustensiles de cuisine, vaisselle, on en est où à cette époque de l'humanité?
Tout dépend du milieu, en effet. Tout le monde mange avec les doigts, les paysans comme les seigneurs, et avec une cuillère qui simplement est en bois chez les paysans et en matériau orfévré dans l'aristocratie. Tout le monde a un couteau, quel que soit le statut social, et très vite, même un jeune enfant peut avoir son couteau et peut découper des morceaux de viande ou de pain. Au niveau de la plus haute aristocratie, tout vous est pré-découpé et vous n'avez plus qu'à plonger les doigts délicatement dans votre plat central pour pouvoir manger. Il n'y a pas d'assiette. On se sert soit d'un tranchoir qui est en bois chez les gens ordinaires ou même fait simplement d'une tranche de pain dur, soit en matière orfévrée dans la haute aristocratie.
Alors, Daniel Alexandre Bidon, vous qui êtes médiéviste et co-commissaire de cette exposition à table au Moyen-Âge, est-ce que à cette époque-là, il y avait des grands cuisiniers?
Il y a des cuisiniers qui ont laissé leur nom jusqu'à aujourd'hui, car ils étaient devenus légendaires, même si les livres qui étaient publiés sous leur nom n'étaient pas forcément de leur plume. L'un des plus grands cuisiniers, c'est Taillevent, cuisinier de Charles V, et des livres de Taillevent sont encore édités qui ne contiennent pas du tout les mêmes recettes au début du XVIe siècle. On connaît les cuisiniers, on a retenu leur nom souvent parce qu'ils avaient des pseudonymes amusants. Taïwan, donc, devait donner coup de couteau très rapide et taillait le vent en tranchant ses morceaux de viande, par exemple. Mais il y en a d'autres qui peuvent s'appeler Laio, par exemple. Peut-être un spécialiste de la sauce à l'ail, ou bien encore gratte-peau. Donc tous ces pseudonymes amusants qui étaient nés de leur métier sont restés et sont quelquefois mieux connus que les vrais noms. Souvent, certains n'ont jamais été totalement identifiés.
Mais on est bien d'accord qu'à cette époque-là, on ne parlait pas de cuisine française. C'était des cuisines régionales. Mais qu'est-ce qui liait toutes ces cuisines différentes?
Alors, ce qui lie toutes les cuisines, et elles sont vraiment différentes, elles sont pas seulement régionales, mais il y a quand même des cuisines assez, genre, j'ouvre des tas de guillemets, nationales. Les Anglais ne mangent pas comme les Français, qui ne mangent pas comme les Italiens. Tous les pays d'Europe mangent des épices. Donc, il y a des épices qui sont généralement la cannelle, le gingembre, le cumin, le massis. Et simplement, on ne les distribue pas de la même manière. Par exemple, les Français apprécient beaucoup plus le mélange cannelle et gingembre, et d'autres pays préféreront mélanger avec du poivre, par exemple, ou comme les Anglais, avec du sucre. Car le sucre est également une épice, et certains repas dès le XIVe siècle sont des repas sucrés.
Alors, bien sûr, on mange, aujourd'hui on dirait bio, mais bon, ça n'a aucun sens de parler de bio au Moyen-Âge, mais on mange principalement les fruits et légumes de la saison.
On mange forcément les fruits et légumes de la saison, sauf qu'on fait des conserves. Et donc,
déjà,
on peut conserver, oui, déjà, et même c'est nécessaire pour être sûr de pouvoir faire la jonction avec la saison suivante. Il suffirait d'un mauvais climat, par exemple, d'une mauvaise météo, pour qu'on n'ait pas de quoi finir l'année avec les provisions. Donc, on conserve au maximum. On peut conserver sur des claies, tout simplement, les pommes, les poires, très longuement, pendant des mois, à condition de les laisser à l'abri, dans le noir, et de bien surveiller qu'elles ne s'abîment pas. Mais surtout, on conserve dans du miel, comme les noix, par exemple. On conserve dans du vinaigre, beaucoup. On conserve dans du sel les poissons et puis on conserve par des opérations de fumage ou de salage qui permettent de faire durer les aliments très longtemps. Par exemple, si vous fumez un hareng, 100 ans après, votre hareng fumé sera toujours consommable. Donc, on se sert de toutes les techniques de conservation possibles et imaginables.
On reste à table et au Moyen-Âge avec vous, Daniel Alexandre Bidon. À table au Moyen-Âge, c'est l'exposition qui a lieu en ce moment à la tour Jean sans peur, située au 20 rue Étienne Marcel à Paris, dans le 2e arrondissement. C'est un lieu à visiter puisque ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'il est ouvert au public. Et il y a une salle dédiée à la vie au Moyen-Âge en ce moment. Et avec vous, Daniel Alexandre Bidon, qui est médiéviste et une des co-commissaires de cette exposition, on parle de l'art culinaire. Est-ce qu'on parlait déjà d'art culinaire au Moyen-Âge?
On peut pas parler d'art culinaire, mais c'est une réalité. Par exemple, en cuisine, travaillent également des cuisiniers et des peintres, comme parmi les plus grands peintres, parce que les plats sont décorés, uniquement bien sûr dans l'aristocratie. Ils sont décorés à l'aide des épices dont on a parlé précédemment et auxquels ne peuvent pas prétendre les paysans, ça coûte beaucoup trop cher, hein, ce qu'on tente de moutarde et de poivre long. Mais il faut peindre les entremets, par exemple, les plats les plus luxueux, les gelées, aux armoiries du prince, ou bien encore avec des motifs emblématiques de l'époque, des mi-parties, par exemple, un côté blanc, un côté rouge, ou bien encore on les couvre de feuilles d'or. Et tout ceci, ce sont les peintres princiers qui viennent le faire.
Alors, la culture est très présente pendant les repas, et surtout le repas du soir, puisque ce repas du soir est entrecoupé de spectacles. Racontez-nous ça, Daniel Alexandre Bidon.
Alors, pour les grands banquets, en effet, il existe quantité d'entremets tout à fait spectaculaires. Et par exemple, pour des banquets de mariage, dans les années 1460, on invente des banquets où arrivent des automates de plusieurs 10 ou 20 mètres de long qui sont mus par des personnes à l'intérieur, qui font bouger par exemple les yeux, et notamment une baleine. Imaginez entrer dans la salle du festin une baleine en format réel, avec des yeux en miroir qui bougent, qui peuvent pivoter et qui brillent au reflet de toutes les chandelles autour des flambeaux autour de la table. Il y a des entremets sous forme de pâtés géants que l'on peut soulever, le couvercle se soulève et à ce moment-là en sortent des enfants qui chantent d'une voix angélique, ou bien encore des orchestres complets de musiciens qui, avec leurs instruments, animent et distraient l'assistance. Et puis, il y a aussi...
Et ça, c'est entre deux mets, hein, c'est pas pendant qu'on consomme un plat, non.
C'est comme une représentation théâtrale qui vient donc s'intégrer entre deux services. Mais il y a aussi des entremets qui se mangent. La plupart d'entre eux sont faits pour regarder, mais on peut tout de même en consommer. Par exemple, on servait à table des faisans ou des paons revêtus de leurs plumes ou des cygnes crachant le feu. On en voit un exemple dans un tableau de Jérôme Bosch, notamment Les Noces de Cana. Ces mets n'étaient pas des mets délicieux parce qu'évidemment, il fallait les farcir d'artifices, de bouts de fil de fer, d'alcool à brûler pour créer les mécanismes et les effets un peu pyrotechniques qui étaient associés. Mais quelquefois, on se contentait simplement de cuire un autre animal, une oie, et puis de la revêtir des plumes du paon ou des plumes du cygne, de la déguiser en quelque sorte, pour que ça puisse quand même être mangé.
Et loin des châteaux des nobles, comment mangeait le peuple de France ?
Du pain.
Du pain.
On mange
et
des
du
céréales.
Vin.
Du pain et du vin.
Voilà.
Et du pain et des légumes.
Ah, il y a des légumes.
Les légumes. Les légumes, parce que ça pousse dans tous les potagers des paysans, et que les nobles n'en veulent pas, sinon pour donner du goût aux sauces ou au bouillon. Là oui, les légumes entrent dans le bouillon, mais on ne consommera pas, on ne mangera pas la carotte qui a donné le goût au bouillon en question, ou le panais. Et en revanche, les paysans, eux, ils mangent des légumes, ils mangent environ 80% de leur repas, c'est du pain. Des pains et des bouillies. Et pour les boissons, effectivement, c'est du vin, quand on peut le payer, parce que le vin n'est pas donné non plus. Et beaucoup de gens dans beaucoup de régions ne peuvent pas s'offrir le luxe du vin. Et donc doivent boire les pauvres du poiré, de la cervoise ou du cidre.
Et qu'est-ce qu'on écoute là, Daniel Alexandre Bidon ?
On écoute le bruit du vin qui coule d'une fontaine de vin, qui est donc un entremets automate qu'on disposait sur la table et qui faisait gicler délicatement le vin par de nombreux orifices. Ce vin coule sur des grelots, se répand dans une cuvette et après se répand par terre et sur la table, donnant l'idée d'une abondance absolue.
Donc une fontaine de vin.
Voilà, une fontaine de vin.
Qui, chez certains, devenait un objet de farce et attrape, parce qu'il y avait du vin blanc qu'on croyait servir et c'est le vin rouge qui finit par couler.
Alors là, il y a des fontaines qui sont uniquement ornementales et qui sont un plaisir pour les oreilles, comme celle qu'on vient d'entendre, qui est conservée à Cleveland. Mais il y en a d'autres, effectivement, qui sont des fontaines farcées à trappe, avec des différents goulots qui tournent tout autour. On peut mettre 4 ou 5 jeunes seigneurs qui vont essayer de téter le goulot de la fontaine, mais il n'y aura que un goulot qui va distribuer du bon vin. Tous les autres distribueront du vinaigre, des boissons âpres, ou en tout cas qui n'ont rien à voir avec la noblesse et qui vont décevoir le buveur. Et donc c'est très amusant de regarder les réactions de tous les jeunes seigneurs à qui l'on joue ces tours et de voir quels sont ceux qui savent prendre sur eux, justement. C'est une des manières de reconnaître ceux dont on peut s'entourer.
Est-ce que les médecins se mêlaient de la cuisine au Moyen-Âge ?
Oui, les médecins, surtout dans les milieux aristocratiques, sont extrêmement puissants. Et quelquefois même, ils se tiennent debout derrière l'épaule du prince pour vérifier ce que celui-ci avale. Chaque personne a une diète dans l'aristocratie. Une femme enceinte ne mange pas la même chose qu'une personne qui vient de faire un voyage, qu'une personne âgée ou même qu'un enfant. Chacun a un régime différent qui est approprié non seulement à son état général, la grossesse par exemple, mais à sa personnalité et à sa complexion propre.
En tant que médiéviste, vous qui avez travaillé sur ce thème, c'est-à-dire comment manger dans le Moyen-Âge, Daniel Alexandre Bidon, est-ce que vous avez essayé les recettes de l'époque?
Oui.
Ça donne quoi, une omelette sucrée aux oranges?
Alors ça, je ne l'ai pas fait. Oui, j'en ai fait ou j'en fais faire quelquefois.
Par exemple,
il m'est arrivé d'en faire à des cuisiniers. Par exemple, des magnifiques représentations, enfin, c'est vraiment presque un tableau, des truites en gelée, mais la gelée est teintée couleur bleue. On peut disposer au fond des bacs dans lesquels nagent les truites, qui sont donc laissées entières, des cailloux, des fleurs de nénuphar, d'autres petits poissons.
Enfin, je me rattrape quand je dis omelette sucrée aux oranges, ça doit pas être bon. Ben, si ça se trouve, c'est bon.
C'est absolument délicieux. Alors, tout peut être salé ou sucré. Le poisson peut être sucré, l'omelette est sucrée ou salée. Alors, les oranges sont acides à cette période-là, terriblement acides. On peut pas les manger sans sucre. Donc, croquer dans une orange, enfin, c'est impossible. Bon, on crache immédiatement.
On mangeait mieux à l'époque, d'après vous?
On mange mieux. Les paysans, vous voulez dire, mangent très bien.
Ouais.
Donc, ils mangent en diététique à nos yeux. Du pain, des légumes, du vin, ça.
Non, mais
l'idée même
qui est en train de revenir, hein. Les médecins aujourd'hui conseillent de commencer un repas par un fruit. Là, c'était tout à fait normal au Moyen-Âge.
Voilà.
Ouais.
Ah oui, un fruit apéritif. Et donc de terminer par le fromage. Par contre, où l'ordre n'est pas le même. On commence d'abord par manger des fruits sucrés ou confits, des dattes par exemple séchées, c'est la desserte. Et après, ou une poire, parce que la poire, elle est lourde, elle va enfoncer tout ce qu'on a avalé au fond de l'estomac, et ça permet de passer au fromage, qui était aussi un élément important du repas. Ça donne du calcium, on le savait pas, mais en tout cas, c'était jugé très important et bon pour la santé.
Et dans cette exposition, on apprend que le summum du luxe, c'était de manger des pâtes qui nous venaient d'Italie.
On n'en mangeait pas en France. On n'a jamais trouvé le goût de la pâte dans le royaume de France. En revanche, les Anglais, comme les Italiens, eux, mangent des pâtes. C'est une invention, entre guillemets, arabe. Et effectivement, c'est venu par la Sicile, notamment par l'Italie du Sud. C'est venu sur les cours donc d'Italie et même d'Angleterre. Mais les pâtes, c'est quelque chose qui vaut très cher à la période médiévale. Ça vaut peut-être 4 fois plus cher que la viande. Donc, c'est vraiment luxueux. Et en plus, ça se conserve excellemment, puisque une fois sèches, les pâtes peuvent se garder plusieurs années.
Et à l'époque, à la mi-journée, le repas de la mi-journée, c'était le dîner, et le soir, c'était le souper.
Oui, le souper.
Et aujourd'hui, il n'y a plus que les Québécois pour continuer à parler comme ça.
Oui, oui, ils sont un vrai conservatoire du Moyen-Âge, en effet. Heureusement, grâce à soit rendu aux Canadiens. Et il faut imaginer un repas de midi, alors là aussi très différent pour les nobles et pour... Alors, on va parler un peu des gens du peuple quand même. Les gens du peuple, les travailleurs, ils n'ont pas le temps de rentrer chez eux, hein, parce qu'il n'y a pas de métro, donc ils marchent à pied, c'est trop loin souvent. Les jeunes travailleurs vivent dans des immeubles de rapport, ils ont des minuscules pièces ou des tout petits appartements où il n'y a pas de cheminée, ils n'ont pas de quoi faire la cuisine. Et donc tous les repas se prennent à la taverne, hein, dans un boui-boui quelconque, au coin de la rue. Il y a de la nourriture de rue, hein, de la nourriture sur le pouce. Hein. On peut acheter des petits pâtés chauds à des marchands ambulants. On peut aller demander simplement une tranche de fromage fondu sur du pain à la taverne et on met un verre de vin par-dessus, hein, histoire de mieux digérer, parce que le vin aide à digérer, disent les médecins, ou bien manger des tripes dans un bol. Donc, il y a beaucoup de restauration de rue, en fait, hein, dans le monde médiéval à midi.
Merci beaucoup, Daniel Alexandre Bidon. Vous nous avez bien éclairé ce matin autour de cette exposition qui a lieu jusqu'au 10 mai à la Tour Jean Sans Peur, dans le 2e arrondissement à Paris, à table au Moyen-Âge. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Quelques recettes médiévales sont à retrouver à la page du Réveil culturel, émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son Éric Boissé. Excellente matinée sur France Culture.
France Culture, les petits matins, 6h-7h. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Ce n'est pas un chat comme les autres. Doué de parole et d'un esprit critique décapant dans l'Algérie du début du XXe siècle, le chat du rabbin, adapté de la BD de Johann Sfar sur France Culture. Une fable colorée, truculente, qui nous fait découvrir la culture juive séfarade à travers une pléiade de personnages aussi attachants que farfelus.
Ça me permet de faire connaissance avec l'âne.
Il s'appelle Sfar.
Bah oui, Sfar, c'est arabe.
Mais n'importe quoi, mais c'est Sfar, c'était un rabbin.
On répète un peu pour voir.
Rabbin.
C'était un soufi.
Ah, tu l'as dit, rabbin.
Entrez dans la danse, le chat du rabbin, de lundi à vendredi à 20h30 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'Italie se réveille ce matin en quarantaine. Tout le pays est désormais concerné sur ordre du gouvernement à cause du coronavirus. Nous rejoindrons notre correspondant à Rome dans un instant. Vous entendrez ensuite les craintes des médecins de ville en France. Ils sont en première ligne face à cette épidémie et ils regrettent de n'avoir pas assez de masques à disposition. Et puis, que reproche l'UNEF à la plateforme d'orientation Parcoursup ? Le syndicat étudiant a saisi le Conseil constitutionnel. Il sera examiné à partir d'aujourd'hui. Face au coronavirus, toute l'Italie est placée à l'isolement avec effet immédiat depuis la publication cette nuit d'un décret. En Italie, le bilan est désormais de 463 morts à cause du coronavirus. Plus de 9150 personnes sont contaminées. Le gouvernement justifie ces mesures de confinement par la nécessité de protéger les populations les plus fragiles. Seule façon, selon lui, d'endiguer l'épidémie, Bruce de Galzin.
Et l'Italie entière est en quarantaine. Elle devient zone rouge, zone protégée, comme l'a expliqué le chef du gouvernement. Nous n'avons plus le temps, des mesures plus sévères s'imposent, affirme Giuseppe Conte, qui interdit désormais tout rassemblement dans les lieux publics. Les écoles et universités resteront fermées un mois supplémentaire, jusqu'à début avril. Bars et restaurants ne seront ouverts que jusqu'à 18h. Toutes les compétitions sportives sont suspendues, le championnat de foot notamment. Même les déplacements sont à éviter, sauf pour aller travailler. Les transports publics sont d'ailleurs maintenus, ou en cas de nécessité qu'il faudra prouver, ou pour des problèmes de santé. Le chef du gouvernement a résumé ces nouvelles directives d'une phrase « Désormais, je reste à la maison ».
Lui est allé dans une zone de confinement. Le président chinois Xi Jinping est arrivé ce matin à Wuhan, ville de l'épicentre du Covid-19. C'est la première fois que le dirigeant s'y rend depuis le début de l'épidémie. Une visite d'inspection selon son équipe qui a prévu des rencontres avec des habitants, des médecins, des malades, des responsables politiques. Une façon surtout de communiquer positivement, de montrer que cette épidémie est en train d'être endiguée en Chine. En France, il n'y a pas de confinement obligatoire tant que la maladie n'est pas détectée chez les personnes. Le ministère de la Santé encourage tout de même les consultations à distance. Mais Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français, alerte sur la forte pénurie de masques chirurgicaux pour le personnel médical et pour les malades. Jean-Paul Ortiz le disait hier soir lors du journal de 22h sur France Culture au micro de Laura Dulieu.
Contrairement à ce que le ministère nous a affirmé depuis une semaine, nous n'avons pas et nous avons beaucoup de mal à avoir ces fameux masques chirurgicaux qui nous permettent de nous protéger. J'ai fait 3 pharmacies aujourd'hui pour moi, je n'en ai pas trouvé. Or, on nous avait dit qu'on débloquait en nombre important des masques chirurgicaux et que les médecins pourraient s'adresser aux pharmacies pour en avoir, mais il n'y en a pas, ou il y en a extrêmement peu, et on nous les donne au compte-goutte. Ça, c'est une situation extrêmement grave, parce qu'on est aux portes d'une épidémie, et les soignants de ville, les médecins, les infirmières, les kinés, les chirurgiens-dentistes, etc., ils ne sont pas protégés vis-à-vis de cette infection parce que nous n'avons pas des masques en quantité suffisante. J'espère que le ministère va prendre des mesures dans les plus brefs délais pour que partout on puisse avoir ces masques parce qu'il en faut un pour nous, soignants, il en faut un pour le soigner à la moindre alerte, à la moindre suspicion de coronavirus. Et c'est cette double barrière, soignant-soigné, qui est optimum pour éviter la transmission de ce virus. Il faut absolument que tout le monde en soit largement dotés dans nos cabinets.
Je rappelle le bilan donné hier soir en France par les autorités sanitaires. 25 morts depuis début janvier, 1412 cas confirmés. Et parmi ces cas de contamination, il y a le ministre français de la Culture, Franck Riester, dépisté positif au coronavirus hier. Il reste donc chez lui et il annule ainsi sa participation aux réunions publiques lors de sa campagne électorale pour les municipales à Coulommiers en Seine-et-Marne. Une campagne qui par ailleurs se poursuit tant bien que mal avant le premier tour prévu dimanche. Un peu moins d'un tiers des Français pourraient ne pas aller voter par peur de ce coronavirus. En tout cas, Jérôme Sainte-Marie, sondeur, politologue, président de l'Institut Pollingvox, anticipe lui deux conséquences sur ces élections.
Certaines personnes auront peur de se rendre dans un lieu public fréquenté, donc avec possibilité de contamination réelle ou supposée. Et cela, ça risque de concerner avant tout les populations les plus fragiles, c'est-à-dire, d'après ce que l'on sait, plutôt les personnes âgées. Donc il y aura peut-être un différentiel de participation un peu inattendu. On sait que les personnes âgées, généralement, votent beaucoup plus, notamment au municipal, que le reste de la population. Cette crainte qui se répand pourrait avoir un effet de rééquilibrage. Mais il y a également un autre effet qui, lui, est tout à fait certain, c'est l'actualité. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une campagne où, par exemple, on souhaiterait soutenir ou plus généralement s'opposer au gouvernement sur la question du 49-3, eh bien là, l'actualité porte beaucoup, beaucoup sur les sujets sanitaires et pour des raisons assez évidentes, la peur du coronavirus a un effet de distraction de l'attention par rapport aux sujets sociaux, mais également de plus faible mobilisation dans les rassemblements d'opposition à la réforme des retraites et au 49-3.
Des propos recueillis par Nicolas Joly pour France Culture. L'actualité du moment pour les lycéens et leurs parents, c'est aussi le baccalauréat et la préparation de la suite via Parcoursup, la plateforme post-bac, plateforme d'orientation. Alors que les élèves ont jusqu'à jeudi, c'est-à-dire après-demain, pour faire leurs vœux sur cette plateforme, le Conseil constitutionnel examine à partir d'aujourd'hui une question prioritaire de constitutionnalité déposée par l'UNEF. Le syndicat critique en fait la façon dont les universités choisissent les candidats à Kim Kasmi.
Ce que dénonce l'UNEF, c'est l'opacité dans l'examen des dossiers d'inscription des lycéens sur Parcoursup, notamment les algorithmes qu'utilisent les universités pour choisir leurs étudiants qui arrivent en première année de licence. Des algorithmes qui vont au-delà du type de bac obtenu en fonction des filières demandées, selon Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF.
Dans l'algorithme, eh ben, quand on vient d'un certain lycée, on a moins de chances de réussir pour, enfin, d'avoir une place dans la filière de son choix. C'est un problème. Que ce soit l'algorithme ou que ce soit l'origine du bac, pour nous, ce sont pas des critères qui sont légitimes pour trier les étudiants. Donc, il y a énormément de choses qu'il faut qu'on puisse savoir. Et quand on voit qu'il y a autant de réticence à nous donner les algorithmes, c'est bien qu'il y a quelque chose à cacher. Et c'est pour ça que nous, on espère que le Conseil constitutionnel va consacrer justement ce droit d'accès aux documents administratifs et nous permettre d'avoir accès aux algorithmes de Parcoursup.
Rappelons. En juin dernier, le Conseil d'État avait déjà annulé le jugement du tribunal administratif de Guadeloupe, ce qui avait obligé l'Université des Antilles à devoir publier ses algorithmes locaux. En attendant la décision du tribunal constitutionnel, les élèves de terminale ont jusqu'à jeudi pour inscrire leurs vœux sur la plateforme Parcoursup.
La fin du procès Fillon approche. Le réquisitoire du parquet national financier est prévu aujourd'hui. Les prévenus, Pénélope et François Fillon, encourent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, de lourdes amendes ainsi que des peines d'inéligibilité. Les dirigeants de l'Union européenne demandent à Ankara de respecter les termes d'un accord qui vise à éloigner les migrants des frontières européennes. Ils ont rencontré hier le président turc Recep Tayyip Erdogan à Bruxelles. Il est clair que nous avons nos désaccords, mais nous nous sommes parlé franchement, a conclu en fin de journée la présidente de la Commission européenne. Il y a un an, le 10 mars 2019, un Boeing 737 MAX de la compagnie Ethiopian Airlines s'écrasait peu de temps après son décollage de l'aéroport d'Addis Abeba. 157 personnes en sont mortes. Une cérémonie est prévue aujourd'hui sur les lieux de la catastrophe, alors que les critiques pleuvent toujours à l'encontre de Boeing et de son appareil. Le 737 MAX ne semble pas prêt de revoler, Grégory Phillips.
Le Boeing 737 MAX est un appareil fondamentalement défectueux et dangereux, conclusion de la commission des transports du Congrès américain qui la semaine passée a rendu son rapport implacable. Les représentants démocrates comme républicains parlent d'erreurs de conception technique et de dysfonctionnement dans le processus de certification de ces avions avec des conflits d'intérêts liant d'un côté la FAA, le régulateur aérien aux États-Unis, de l'autre le constructeur Boeing. Parallèlement, les autorités éthiopiennes ont aussi enquêté et arrivent à la conclusion que la formation des pilotes fournis par le constructeur était inadéquate, notamment en ce qui concerne le système MCAS qui devait prévenir un décrochage de ces appareils. De son côté, enfin, Boeing dit espérer un retour de ses avions dans le ciel à la mi-2020, mais ça paraît peu probable tant les problèmes techniques s'accumulent. C'est la crise la plus grave traversée par le constructeur depuis sa création il y a un peu plus d'un siècle. La production et la livraison des 737 MAX sont suspendues. Le directeur général de Boeing a été remplacé et l'an dernier, la société a perdu 18 milliards de dollars.
C'était Grégory Phillips depuis Washington pour France Culture. Le temps en France métropolitaine, il sera encore humide ce mardi sur une grande moitié nord du pays avec des averses soutenues et des nuages gris. Sur une large bande sud, en revanche, le soleil sera bien présent. Il fait ce matin 6 degrés à Besançon et à Lyon, mais déjà 11 degrés à Lille, 12 à Rennes et à Paris, 13 degrés à Bayonne et à Nice. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Il est 6h40, on vous retrouve pour le journal des idées. Et Jacques, à l'approche des municipales, premier tour ce dimanche, les enquêtes sur le rôle, les pouvoirs, les bilans et le profil sociologique des maires se multiplient.
Mais oui. Comment changer la ville? Le dossier publié par le mensuel Alternatives économiques couvre tous ces champs. S'il est vrai que la France détient le record de l'émiettement communal, le regroupement en communautés de communes se développe sans forcément réduire la marge de manœuvre des maires. Au contraire, estime le politiste Stéphane Cadieu, l'intercommunalité a renforcé leur pouvoir car les Comcom, les communautés de communes, sont des instances surtout composées des maires et le sociologue Éric Charme, auteur notamment de La Revanche des Villages, souligne que les petites communes ont un pouvoir de blocage sur des projets qui auraient dans le passé été décidés par leurs grandes voisines seules. Même si l'intercommunalité n'a pas de légitimité démocratique directe, alors qu'elle assume des compétences comme le plan d'urbanisme, le développement économique ou la gestion de l'eau, elle est le reflet d'une évolution qui confronte désormais les élus à des dynamiques plus complexes que la construction d'une salle des fêtes ou d'une déchetterie. Justin Delépine aborde la question du budget, une équation de plus en plus difficile entre recettes réduites et dépenses contraintes malgré la dotation de l'État et la compensation promise pour la suppression de la taxe d'habitation. Les collectivités craignent en effet que cette compensation soit victime des arbitrages budgétaires du gouvernement dans les années à venir. Et là aussi, l'intercommunalité présente des avantages, notamment pour les communes les moins bien dotées. La péréquation permet de transférer une partie des recettes fiscales des plus riches vers elles, sans toutefois effacer les disparités. Et la baisse continue de la dotation versée par l'État se traduit par une diminution de leurs investissements. Or, les collectivités locales, régions, départements, communes et intercommunalités assurent plus de la moitié de l'investissement public. Si la sociologie des maires est un peu plus représentative de la population que celle des élus nationaux, les jeunes femmes et les classes populaires restent sous-représentées, relève Vincent Grimaud. Peu de maires ouvriers, 2,6%, mais davantage d'agriculteurs que la moyenne nationale, 13,4%, des cadres, chefs d'entreprise ou retraités, âge moyen 63 ans. Et malgré la loi imposant la parité des candidats qui a permis l'élection de près de 40% de femmes sur les listes, seuls 16% d'entre elles sont maires. Plus on monte dans la hiérarchie municipale, plus la figure du vieux mâle blanc diplômé domine. Pour Emmanuel Bélanger, dans les pages débats et controverses de l'Humanité, la démobilisation électorale qui affaiblit la légitimité des maires est aussi à l'origine de ce décalage sociologique. Mais la matrice municipale résiste mieux du fait de l'émergence de la démocratie participative ou de l'autogestion communale encouragée par de nombreux élus. Le chercheur en histoire sociale revient sur la contribution des communes françaises à l'ancrage de la République dans les territoires. par le patriotisme de Clocher et ses sociabilités festives. Dans les années 1930, plus de 10% des maires de grandes villes sont des ouvriers ou de petits salariés portés à la tête de leur commune à la faveur de la dynamique du Front populaire. Des communes qui deviennent le laboratoire du socialisme municipal, comité de quartier, syndicats et associations locales s'emploient alors notamment à résorber l'habitat indigne en promouvant des projets d'urbanisme social. Pour Pierre Vermeuren, les maires ont une lourde responsabilité dans l'enlaidissement de la France. L'historien estime dans les pages Champs libres du Figaro que la destruction de la nature, des espèces et des espaces naturels ou l'état calamiteux de notre patrimoine architectural et urbanistique sont imputables à sept plaies modernes comme l'extension dévorante du bâti périurbain qui dévore 200 km² de bois et de terres agricoles par an, soit l'équivalent de deux Paris, et la constitution hors sol de voies rapides, de réseaux autoroutiers et ferroviaires de TGV qui ont saucissonné l'espace national quand les anciennes routes ou les lignes de chemin de fer se contentaient de l'irriguer. Si la responsabilité de l'État est indéniable, on ne saurait, selon lui, exonérer les maires, notamment ceux des 5000 villes de plus de 2000 habitants. L'historien pointe notamment l'intercommunalité, derrière laquelle les maires ruraux, comme ceux des grandes agglomérations, peuvent se retrancher et qui organisent l'irresponsabilité des élus au profit d'une instance en partie élue dans des conditions qui échappent au commun des électeurs. Hors de tout contrôle démocratique, la pression des maires les plus puissants s'exerce alors dans les petites communes au détriment du pouvoir des maires ruraux et des opposants. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, la nouvelle constitution russe.
Oui, la Douma, le Parlement russe, examine aujourd'hui les amendements constitutionnels présentés il y a quelques jours par Vladimir Poutine après son annonce inattendue le 15 janvier d'une vaste réforme de la constitution, constitution rédigée peu après la chute de l'URSS. Il ne sera pas question ce mardi des pouvoirs accrus que le président russe souhaite accorder au Parlement et au Premier ministre. Volonté quelque peu équivoque, puisque lui, Vladimir Poutine, ne pourra pas se représenter à la présidentielle de 2024 et donc donne la sérieuse impression de chercher une solution pour garder le contrôle. Ce matin, les textes examinés, ce sont des amendements rédigés par un groupe de travail à la demande du président russe et organisés autour du triptyque « Dieu, famille et peuple russe ». Pour résumer, quel sens politique donner à ces amendements ? On en parle ce matin avec vous, Jean-Robert Ravio. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de civilisation russe contemporaine à l'Université Paris-Nanterre. On peut reprendre dans le détail quelques-unes des modifications constitutionnelles présentées il y a quelques jours. Il se trouve que vous avez pu consulter les procès-verbaux des échanges entre le groupe de travail chargé de présenter ces amendements et Vladimir Poutine. Alors la question du mariage, par exemple, il va être défini constitutionnellement comme l'union d'un homme et d'une femme, à rebours donc de ce qui se passe quand même dans une grande partie de l'Europe. Quel genre de débat ça a occasionné en Russie ?
Alors sur cette question précisément de la définition du mariage, ça a occasionné assez peu de débats dans l'opinion publique et dans la société, et assez peu de débats aussi au sein du groupe de travail. Il y a juste eu un moment intéressant dans les discussions sur ce point, c'est que l'amendement qui était proposé par le groupe de travail, c'était de définir la famille russe, si on peut dire. Cette famille composée d'un homme, d'une femme, d'enfants, etc. Et là, Poutine est intervenu, il a dit non, on peut pas définir la famille, parce qu'il y a des familles monoparentales, il y a des familles sans père, etc. Donc il faut définir non pas la famille, mais le mariage, donc en allant de manière très claire à rebours d'une tendance qu'on a observée en France, notamment avec le mariage pour tous.
C'est quoi, c'est définir... un défi d'ailleurs, un Alors, défi lancé à la communauté LGBT
C'est surtout, je pense, d'abord c'est une question qui fait assez peu débat dans la société russe. C'est vrai qu'il y a des groupes LGBT et des mobilisations de ce côté-là, mais assez peu représentative en général. L'idée que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme fait pas beaucoup débat dans la société russe. Mais je pense que c'est aussi un message à destination internationale, en tout cas ce point-là, parce que ça ancre la Russie et ça lui donne dans une tactique de soft power conservateur, qui est un peu la marque de fabrique de Poutine depuis quelques années, d'avoir donné à son action et à son discours un ton conservateur.
C'est une proposition à l'origine, je crois, faite par un homme d'affaires russe qui est est aussi chef adjoint de l'Assemblée populaire russe mondiale, proche de l'Église orthodoxe.
Absolument, et... qui a joué un rôle important dans ce groupe de travail. Cette proposition en particulier n'a pas été la plus discutée. Elle a même été assez peu discutée. Elle est passée avec peu de discussions. Il y a eu un grand consensus. Il y a d'autres points abordés qui vont être votés aujourd'hui, d'autres amendements qui ont été davantage controversés.
Alors, est-ce que celui, par exemple, de dire que le préambule de la Constitution doit évoquer la foi en Dieu, est-ce que ça a été controversé? Et surtout, de quel Dieu s'agit-il, puisque la Russie est un pays multiethnique et multiconfessionnel et laïque?
Et pas, ouais, absolument. Donc il y a d'un côté le principe de laïcité dans la Constitution et en même temps la foi en Dieu. Alors la réaction a été, il y a eu quelques protestations, il y a eu quelques justement observations, notamment d'un professeur de droit constitutionnel à l'Université de Moscou qui a fait observer qu'il y avait quand même une contradiction entre la foi en Dieu et le principe de laïcité. Ce qu'on a vu, c'est que cet amendement a fait l'objet immédiatement d'une acceptation assez médiatisée. Non pas de l'Église orthodoxe, on savait, mais de l'islam, des autorités musulmanes, qui ont pris la parole, notamment le grand moufti, puis moufti du Tatarstan, en disant « nous soutenons pleinement cet amendement pour renforcer l'idée de la foi en Dieu dans le préambule de la Constitution », ce qui en fait rajoutait deux mots. Hein. Dans l'ancien préambule, il y avait l'idée de la foi dans le bien. On va remplacer la foi dans le bien par la foi en Dieu.
Mais c'est presque une interprétation que le Moufti a fait, puisque la phrase complète, c'est « La Fédération de Russie, unie par une histoire millénaire, doit préserver la mémoire des ancêtres qui ont transmis leurs idéaux et la foi en Dieu ». Donc il faut presque enquêter sur les ancêtres en question pour savoir de quel Dieu.
Les ancêtres étaient déjà là, dans l'ancien préambule. Mmh. En fait, on a juste remplacé la foi dans le bien par la foi en Dieu. Voilà. On a remplacé le bien par Dieu.
Alors, Jean-Robert Ravio, un autre amendement concerne la question du rôle du peuple russe dans la construction de l'État. Je ne sais pas si l'expression russe est clairement traduisible en français, mais en tout cas, c'est une idée, avec un I majuscule, qui vient d'où?
C'est une idée qu'on peut très bien tracer, qui est une idée qui vient d'un courant, je dirais, d'intellectuels conservateurs qui défendent cette idée depuis une vingtaine d'années. Ils ne sont pas forcément des nationalistes, mais plutôt des conservateurs, démocrates conservateurs, venus d'ailleurs plutôt du rang démocrate au départ. Alors, cette idée, elle est assez difficilement traduisible. L'idée, c'est qu'il faut inscrire dans la Constitution le fait que le peuple russe est celui qui a construit l'État de la Russie. C'est-à-dire qu'il a un rôle fédérateur et constructeur de l'État. Alors, c'est un terme qui, en russe, est un peu technique et à vrai dire, c'est un amendement qui a fait débat, même au sein du groupe de travail, parce qu'il donne l'idée qu'on revient sur le caractère multiethnique et l'égalité entre les peuples qui constituent la Fédération de Russie. Puisque le préambule dit à la fois, la Fédération de Russie est un État multiethnique et en même temps multiethnique au sein duquel une ethnie, si on peut dire, le peuple russe constitue, si on peut dire, le noyau du peuple russien, puisque en russe, il y a deux adjectifs pour dire russe. Il y a l'adjectif russe ethnique, c'est-à-dire les russes au sens ethnique qui parlent russe, etc. Et puis russien, c'est tous les habitants de la Fédération de Russie, qu'ils soient russes ou bien tatars, tchétchènes, etc. Les russes constituent 82% de la population. Alors effectivement, ils sont une énorme majorité, mais ils ne sont pas les seuls. Donc ce point a été discuté pas mal, notamment par les Tatars, enfin au Tatarstan, en Tchétchénie, pas trop, parce que le président Kadyrov met un soin particulier à éteindre ou à taire un peu toute opposition. Mais ça a été controversé. Et ce point-là, il faudra attendre aujourd'hui, je pense, pour voir s'il est adopté dans cette rédaction, ou si à la Douma, des débats vont avoir lieu pour changer ce point-là, parce qu'il est assez problématique, je dirais, même dans sa conception.
Alors, un dernier mot, Jean-Robert Ravio, pour évoquer deux mesures qui ont été moins commentées en France, peut-être parce qu'on ne mesure pas l'importance de ces questions pour les Russes. Celle que les enfants deviennent un patrimoine essentiel de la Fédération de Russie et la question des retraites.
Voilà. Rapidement. Alors, ça, c'était les deux points qui ont été les plus discutés. La question des enfants définie comme le patrimoine un patrimoine de la Fédération de Russie, ça a été immédiatement fortement contesté par un certain nombre d'ONG qui travaillent dans le domaine social. Pourquoi ? Parce que cette question des enfants est très sensible du point de vue de l'histoire russe. La Russie est un pays qui, au XXe siècle, a traversé beaucoup de crises, de guerres, de révolutions, etc., avec à chaque fois beaucoup d'enfants orphelins ou abandonnés. Et donc, il y a cette question des enfants abandonnés qui atterrissent dans des internats. C'est très problématique, c'est une gestion très problématique. Et ce que les ONG... Avec derrière aussi l'Église orthodoxe qui s'est manifestée contre cet amendement, plus ou moins contre, de manière assez feutrée mais quand même assez contre, c'est que il ne faut pas que les enfants apparaissent comme un patrimoine de l'État parce que les enfants ont d'abord vocation à être élevés dans des familles. Et c'est la notion de famille qui doit être mise en avant. Donc ça, il y a eu beaucoup de discussions. Autre point, les retraites. Effectivement, c'est la question de l'indexation. Est-ce qu'il faut inscrire l'indexation des retraites et la régularité de l'indexation dans la Constitution ? Il y a eu beaucoup de débats sur ce point et nous verrons le résultat final aujourd'hui dans la rédaction finale.
Et je crois que ce sont les communistes d'ailleurs qui ont beaucoup porté le fer pour que ce soit le cas. Absolument. Voilà, Jean-Robert Aviaud, sur le sens politique de tout ça, Vladimir Poutine donne l'impression quand même d'avoir voulu s'attirer les faveurs de divers groupes d'influence en leur faisant plaisir, quoi, en adoptant des mesures conservatrices, nationalistes, enfin, on peut utiliser beaucoup d'adjectifs en ce sens, et pour mieux faire passer la pilule de sa future mainmise sur un éventuel, alors on dit le Conseil d'État, et donc de son pouvoir à vie au-delà de la fin de son quatrième mandat en 2024.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Permettez-moi de ne pas être du tout d'accord avec cette interprétation, pas du tout. En fait, Poutine, alors là, vous avez raison, a voulu inscrire dans la Constitution un certain nombre une dimension conservatrice, à travers notamment cet amendement sur le mariage, la famille, etc. Ça, c'est indéniable et ça fait partie de sa marque de fabrique et je pense que ça lui tient à cœur de partir et en laissant une constitution toilettée dans un sens conservateur, ce qui a une dimension, encore une fois, intérieure. Donc, conforter sa popularité, trouver un consensus national, qui, encore une fois, c'est pas du nationalisme, mais le consensus national, il est vraiment plutôt autour de ses valeurs conservatrices que sur des valeurs libérales. D'autre part, je pense que non, il n'aménage pas un pouvoir à vie. Le 15 janvier, lorsqu'il a annoncé ses réformes, il y a eu beaucoup de spéculations, notamment dans la presse, dans les médias. On a dit, voilà, il va faire un scénario à la Nazarbayev, comme au Kazakhstan. Il va s'installer au pouvoir, il va constitutionnaliser ce Conseil d'État, qui va lui permettre de rester à la tête de ce Conseil d'État, et puis de rester indéfiniment au pouvoir.
Et pourquoi vous n'y croyez pas ?
C'est pas moi qui crois pas. C'est lui qui l'a annoncé très clairement il y a quelques jours, le 6 mars dernier, à Ivanovo. Il était dans une usine, enfin à l'occasion de la journée, enfin la pré-journée des femmes, si on peut dire, dans une usine et une rencontre avec des femmes, où il a été interrogé sur de nombreux points. D'ailleurs, il y a une femme qui l'a demandé en mariage. C'est assez drôle. Et il a précisé que il était d'abord dans les amendements constitutionnels vont aller dans le sens d'un renforcement des pouvoirs du président. Et que le président, ce ne serait pas lui, puisque les amendements sont parfaitement clairs sur ce point, il n'y aura pas plus de deux mandats. Et d'autre part, il a dit qu'il était hors de question d'avoir un double pouvoir, une diarchie à la tête de l'État. Le pouvoir du Premier ministre est certes renforcé, mais pour lui, le président doit rester le pivot des institutions, ce ne sera pas lui. Et il a clairement dit qu'il ne serait pas à la tête du moindre Conseil d'État, qui n'aura d'ailleurs pas de président, mais ce sera quelqu'un qui sera nommé par le président.
Voilà, on verra bien quelles sont ses réelles intentions dans quelques mois. Je vous remercie, Jean-Robert Aviaud, d'avoir été avec nous ce matin, professeur de civilisation russe contemporaine à l'Université Paris Nanterre. Merci.
Merci à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Agrippine, cellulite, les frustrés. À travers ses héroïnes, Claire Bretéché fut la première femme dessinatrice de bande dessinée à porter un regard plein d'autodérision et de tendresse sur la condition féminine depuis les années 60.
Je comprends rien aux hommes, j'ai jamais rien compris, mais enfin, je suis plus intéressée par les femmes, je trouve que c'est plus divers. Il y a une espèce de fraternitude, si vous voulez, dans mon attitude. Je sens les femmes comme une collectivité dont je fais partie.
À voix nue, Claire Bretéché par Claude Kiegeman, du lundi au vendredi à 20h et sur franceculture.fr.
Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000, appel gratuit, ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour les Covid, bonjour à toutes et à tous.
Alors, votre humeur du jour ce matin, pourquoi le ministre de la Culture, Franck Riester, a-t-il été testé positif au coronavirus?
À cause de Kevin Bacon, l'acteur Kevin Bacon, lequel a notamment tourné dans Vendredi 13. Si Franck Riester a attrapé le coronavirus, c'est peut-être à cause de son Kevin Bacon number, sa proximité avec Kevin Bacon.
Non.
Alors je sais, dit comme ça, c'est pas clair du tout.
Expliquez.
Je vais m'expliquer. Alors, sur le plan médical, si Franck Riester est positif au Covid-19, c'est pour une raison à la fois simple et décevante. Il a croisé au moins une personne porteuse du virus et il est devenu lui-même porteur du virus. En revanche, sur le plan sociologique, l'explication est beaucoup plus intéressante. Si Franck Riester, comme d'autres politiques, parce que ça n'est pas le seul à attraper le virus, c'est parce qu'il croise beaucoup de monde. Les politiques sont à l'intersection de différents mondes, ce qui accroît la probabilité pour eux de devenir malades. Sur le plan épidémiologique, ils sont des carrefours. Ils voient d'autres politiques, des syndicalistes, des intermittents du spectacle, des Polanski, non pas des Polanski, enfin bref, vous avez compris le principe. Franck Riester constitue un carrefour, probablement plus qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe, lesquels voient peut-être autant de gens, mais peut-être moins de gens différents. Eh bien, en sociologie des réseaux de relations, on dirait que Franck Riester est Kevin Bacon. Kevin Bacon est en effet, d'après différents calculs, l'acteur qui a tourné avec le plus d'acteurs, de réalisateurs, etc. à Hollywood. C'est en quelque sorte le barycentre du système. Kevin Bacon n'est pas Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, ce n'est pas l'acteur le plus connu, mais c'est l'acteur qui a le plus de liens avec d'autres acteurs, metteurs en scène, réalisateurs, c'est le barycentre. Dès lors, Kevin Bacon est à la fois celui qui a le plus de probabilité d'être contaminé par une maladie, mais aussi celle de devenir un super spreader, un super contaminant, c'est ce qu'on appelle le Kevin Bacon number. Il est possible d'ordonner Hollywood en fonction du degré d'éloignement de Kevin Bacon. C'est pourquoi les politiques sont particulièrement frappés par le virus de l'Iran à la France, parce qu'ils sont des carrefours. Le virus ne fait pas de politique, mais la politique, elle, fait du virus.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et aujourd'hui, il va être question des violences policières. S'agit-il d'une nouvelle doctrine ou d'une vieille histoire? On en parlera avec un sociologue, Christian Mouana, et un professeur à Sorbonne Université, Arnaud Hout. 7h sur France Culture.